Lizzie présente La secte de Nicolas Feuze, lu par Lucille Brunel. À défaut de pardon, laisse venir l'oubli. Alfred de Musset. Prologue. Vercors, nuit du 15 au 16 décembre 1995. L'homme prend conscience qu'il vient d'un élément de la vie et qu'il va vers une autre dimension. La mort apparaît à ce moment-là comme l'étape ultime de la croissance personnelle. La parole des grands maîtres de l'ordre résonnait dans l'esprit de Jean-Pierre tandis que, dans l'obscurité, la voiture traversait discrètement Saint-Pierre de Chérennes. Au centre d'une ligne imaginaire tracée entre Grenoble et Romans-sur-Isère, la petite bourgade retirée des hauts plateaux du Vercors dormait paisiblement. Ses 400 habitants ignoraient qu'au cœur des ténèbres, 16 personnes s'apprêtaient à rejoindre la lumière d'une étoile. Jean-Pierre jeta un coup d'œil dans le rétroviseur central et fut rassuré de voir les phares des 3 véhicules qui le suivaient. Sur la banquette arrière, sa femme Marie-France et ses fils Aldouin, 4 ans, et Gurval, 2 ans, s'étaient assoupis. À sa droite, perdu dans ses pensées, Patrick fixait la route qui serpentait maintenant à travers une forêt. Le conducteur posa une main bienveillante sur la cuisse du passager et sentit les vibrations de la peur. « Sirius n'est qu'une escale », dit Jean-Pierre pour tenter de le rassurer. « Nous irons sur Jupiter, comme prévu. »
« Alors Vénus tombe à l'eau ?» soupira Patrick. « Moi j'ai l'impression qu'on va d'abord aller sur Vénus. »«
Je m'en fous, l'essentiel c'est d'aller où on doit aller. » »«
Je pense donc qu'on ira d'abord sur Vénus, parce que d'ici que Jupiter soit prêt, ça va prendre du temps. » »«
On verra sur le moment. »
Jean-Pierre et Patrick étaient tous les deux inspecteurs de la police nationale. Même au cœur des ténèbres, la forêt des Coulmes demeurait belle et austère, peuplée de hêtres et de résineux. La cime des arbres se découpait dans la clarté de la lune. Les 4 voitures aux plaques suisses et françaises se garèrent côte à côte sur le parking du Phase, un petit terre-plein au bord de la route, recouvert d'une fine pellicule de neige. Les 16 occupants descendirent sans dire un mot. L'air glacial envahit aussitôt leurs poumons. À plus de 1000 mètres d'altitude, ils avaient tout prévu et s'étaient habillés en conséquence, vêtements chauds et bottes d'hiver. Parmi eux se trouvait Christiane, une psychothérapeute genevoise chez qui ils s'étaient réunis de nombreuses fois ces derniers temps. André, un architecte vaudois, Edith, l'épouse d'un ancien champion de ski français, son fils, prénommé Patrick lui aussi, sa compagne Outeux et leur fille Tania, 6 ans. Comme tous les autres, ils étaient issus d'un milieu social plutôt élevé et doté d'un certain intellect. Des gens ordinaires, normaux, dirait-on. Ceux qui se considéraient comme tels comprendraient d'autant plus mal ce qui allait se passer cette nuit. Pour tenter de rassurer le public face à l'inexplicable, les médias parleraient immanquablement des méandres tourmentés de la folie humaine ou utiliseraient des termes similaires. Mais peu importait dans l'esprit de Jean-Pierre et des autres membres de l'ordre, car les ignorants ne connaîtraient jamais la sérénité ni la plénitude totale de l'âme. Pendant que son collègue prenait le matériel dans le coffre, Jean-Pierre s'approcha d'André, qui vérifiait une dernière fois le plan de l'étoile gribouillé sur un bout de papier. Ils mémorisèrent l'emplacement de chacun en fonction des initiales indiquées, puis André jeta le plan sur le siège conducteur et verrouilla sa voiture. Les 16 élus laissèrent les affaires superflues dans les véhicules, puis ils se dirigèrent en file indienne vers un petit sentier qui grimpait à travers la forêt. La lune éclairait faiblement le chemin, seul le bruit de la neige crissant sous leurs pas troublait le silence. Ils marchèrent durant une bonne vingtaine de minutes, peut-être un peu plus avec les 3 enfants qui, parfois, les ralentissaient. Mais ce n'était pas grave, le temps ne comptait pas. Dans les bois,